Il est 8h16, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Bienvenue à vous et bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Comment qualifiez-vous cette première semaine de rentrée scolaire ?
Écoutez, c'est plutôt une bonne semaine, même si il y a évidemment toujours des problèmes à noter. Mais quand on pense à tout ce qui se disait avant la rentrée scolaire, il y avait beaucoup de gens qui craignaient cette rentrée. Moi, je pense qu'elle devait se faire. Et aujourd'hui, on voit bien que plus de 12 millions d'élèves sont rentrés. Les professeurs sont là, les élèves sont là. Et malgré toutes les difficultés de préparation liées même au confinement et au déconfinement, et malgré parfois les peurs qui peuvent exister dans notre société, bien tout le monde est rentré et ça me réjouit beaucoup parce que l'école, c'est fondamental dans la vie et une société ne peut pas se permettre de vivre sans école.
Une bonne semaine, hein, si on vous entend ce matin, malgré, vous l'avez rappelé, les inquiétudes, le climat anxiogène également, Jean-Michel Blanquer, on peut quand même parler même de notion de bonheur, de retrouvailles, c'est aussi ça l'école.
Bien sûr, n'ayons pas peur d'utiliser le mot bonheur dans la période actuelle. Il y a eu un véritable bonheur mardi de se retrouver, de se réunir. On connaît ce bonheur classique de se retrouver pour la rentrée. Je pense que ce bonheur a été décuplé précisément parce qu'il a fallu dépasser des obstacles, aussi bien à l'échelle collective de notre nation qu'à l'échelle personnelle de chacun. Et cette sensation d'avoir dépassé un obstacle pour trouver un bonheur auquel on tient et qui a beaucoup de valeur, c'est important. Et donc oui, il y a un bonheur de rentrer.
Bonheur et contrainte, défi, soyons concrets ce matin. Comment ça se passe par exemple dans une petite classe? Comment on apprend, Jean-Michel Blanquer, au plus petit avec un masque? Comment on apprend des mots sans voir les lèvres, tout simplement.
Alors d'abord, l'apprentissage des gestes même. Ce qui est important, c'est de dire à quel point cet épisode sanitaire a créé des réflexes dont certains sont positifs. C'est-à-dire qu'il y a du civisme, il y a aussi plus d'hygiène. Et j'espère que ce sera un acquis post-Covid aussi, que ces réflexes-là. Et par ailleurs, les contraintes sur l'apprentissage en général liées au masque en particulier sont réelles. C'est moins bien de parler avec un masque que de parler
surtout
avec un masque.
Surtout pour les plus petits.
Mais ce que l'on voit... D'abord, c'est que s'agissant donc des élèves du primaire, comme vous le savez, ils n'ont pas de masque, mais leurs professeurs en ont un. Et ça peut être gênant, mais en même temps, dès les mois de mai et juin surtout, on avait une sorte d'expérience de cela. Et on a vu que c'était possible et les professeurs se sont accoutumés à cela. Je me souviens de visites que je faisais en mai et juin qui m'ont permis déjà de me faire une idée de la contrainte relative que cela représentait.
Et aujourd'hui, en septembre, les remontées que vous avez sont plutôt positives. Vous n'êtes pas en train d'enjoliver le tableau.
Non, je l'enjolive pas. D'ailleurs, ça se saurait, vous savez, c'est non enjolivable, parce qu'il y a toujours des voix pour critiquer ou contester si je disais quelque chose d'erroné sur une telle chose. Non, il y a de la part des professeurs, que je veux vraiment saluer, une capacité à agir et à professer malgré la contrainte.
Et à s'adapter malgré tout, ici et là, Jean-Michel Blanquer, des classes ferment à cause de cas de Covid. À l'heure actuelle, combien de classes et peut-être même d'établissements ont été fermés en France ?
Alors, il y a en métropole 12 établissements, enfin 12 structures, c'est-à-dire écoles, collèges ou lycées, qui sont fermées aujourd'hui, à rapporter aux plus de 60 000 écoles, collèges et lycées qui existent en France, donc c'est un chiffre petit. À La Réunion, nous en avons environ 10 aussi, donc en tout, ça fait 22. Et les protocoles à La Réunion fonctionnent bien. S'agissant des classes, c'est autour d'une centaine de classes, ça varie évidemment chaque jour, et nous déclenchons à peu près 250 protocoles par jour, c'est-à-dire 250 suspicions de Covid. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'évidemment, les suspicions de Covid qui peuvent exister, elles sont liées à des facteurs externes à l'école, à des personnes qui souvent avaient pu être éventuellement contaminées avant la rentrée ou dans leur vie personnelle.
Bien sûr, et pour ceux qui nous écoutent, je pense aux parents, quelle est la procédure précise quand un élève est testé positif? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, il se passe pour l'école ce qui se passe dans le reste de la société ou dans d'autres structures, c'est-à-dire que d'abord, la personne est immédiatement isolée, on lui demande de rester chez elle si elle est chez elle au moment où cela se voit, élève ou enseignant, quelle que soit la personne. Et puis ensuite, ce sont les autorités sanitaires qui ont la main pour déclencher le protocole, et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours à chaque fois, c'est-à-dire il y a immédiatement une investigation qui est faite pour savoir quels sont les cas contacts, les tests sont faits, et ensuite des mesures sont prises si nécessaire. S'il y a plus de 3-4 Covid, ça déclenche la plupart du temps une fermeture de la structure.
C'est une règle, plus de 3-4 Covid, fermeture.
Même si,
une structure.
Les autorités sanitaires font preuve de discernement et de souplesse, puisque chaque cas est un cas particulier, mais généralement, c'est 3-4 Covid qui déclenchent une fermeture.
Alors, on pense aussi aux parents, hein, qui ne sont pas forcément en télétravail et qui vont récupérer en journée les enfants. Est-ce que pour ces parents, Jean-Michel Blanquer, ils pourront être arrêtés pour garder leur enfant en cas de fermeture de classe ?
Écoutez, quand il s'agit d'un enfant isolément, s'applique ce qui se passe de manière habituelle, de par la législation, pour avoir la possibilité de garder son enfant, mais surtout, s'il devait y avoir des phénomènes amples dans le futur, c'est-à-dire un nombre important de fermetures d'écoles, de collèges ou de lycées, on déclencherait un protocole permettant d'aider les familles si ça devait s'installer dans la durée.
Concrètement, ça veut dire quoi ? Des modes de garde, alternatifs ?
Mon objectif, si vous voulez, c'est que tout au long de cette année 2020-21, les familles ne soient pas perturbées dans leur vie courante, notamment le travail, par une quelconque fermeture.
Mais si je vous entends bien ce matin, vous préférez qu'il y ait ces modes de garde alternatifs plutôt que des arrêts de travail et des congés payés.
Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Par ailleurs, il y a plusieurs choses à dire sur une telle question. La première, c'est qu'on a un protocole de continuité pédagogique. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a fermeture d'une classe ou d'une école, l'enfant n'est pas dans l'oisiveté. Il y a immédiatement quelque chose qui se déclenche.
Ça veut dire que vous avez appris des carences d'il y a quelques semaines, quelques mois.
Oui, des carences aussi, des réalisations. Hein. Bien sûr, des carences. Vous savez, sur les carences de mai-juin, j'invite chacun à faire une comparaison européenne aujourd'hui. D'ailleurs, sur la rentrée, j'invite chacun aussi.
Quand on se compare, on se console aujourd'hui ?
Largement, si vous voulez. On a parlé de la rentrée tout à l'heure. Regardez les rentrées scolaires dans les autres pays. Dans certains, c'est un enjeu de crise de la société. Donc, et ce que nous avons fait en mai et juin nous a bien préparé à faire la rentrée de septembre. C'est pourquoi il fallait faire ce qu'on a fait, même si c'était dur. Et on peut parler de carences, bien sûr, et on apprend et de ses limites et de ses réalisations. Il y a eu aussi justement des réalisations en mai-juin qui nous permettent aujourd'hui de nous entraîner sur la continuité pédagogique. Donc concrètement, ça veut dire déclenchement de ma classe à la maison, du CNED, et puis nous avons enregistré des centaines d'heures de cours qui peuvent être utilisées le cas échéant.
Mais concrètement, s'il n'y a pas de solution locale de garde, il pourrait y avoir des aides spécifiques aux parents. Est-ce que vous y travaillez ?
Oui, tout à fait.
Quelle piste ?
La piste serait que les parents gardent. C'est des parents qui seraient obligés d'avoir l'enfant à la maison et qui, par ailleurs, travaillent, pourraient être aidés pour les gardes d'enfants à la maison. Par ailleurs, nous continuons aussi à développer les dispositifs qui permettent d'accueillir les enfants dans un autre cadre et dans un cadre qui soit éducatif.
Jean-Michel Blanquer, sur un autre sujet éminemment important et régalien, celui de la sécurité, parler d'ensauvagement, c'est développer le sentiment d'insécurité, a dit le garde des Sceaux à ce micro. C'est un sentiment pour vous, l'insécurité ?
Non, l'insécurité, c'est d'abord une réalité, et puis après, chacun éprouve des sentiments par rapport à cette réalité, mais c'est et une réalité et un sentiment. Donc ça peut pas être réduit seulement à l'un ou seulement à l'autre. Donc le sujet sémantique n'est pas le sujet le plus important.
Mais vous n'avez pas de pudeur à parler d'ensauvagement. Vous êtes connu pour dire les mots, généralement. Vous
oui,
le dites.
Mais je pense que les mots, justement, doivent être pleinement bien choisi, donc
il est
ça
mal
sert
choisi
à rien.
Celui-ci.
Écoutez, la réalité à laquelle on renvoie, c'est-à-dire la vérité de l'insécurité, que beaucoup de personnes
et pas
ressentent
le sentiment,
pour de vrai.
Donc, si je vous entends
donc
bien.
La réalité de l'insécurité est une chose tellement importante et tellement grave que ça ne mérite pas qu'on dépense de l'énergie sur des querelles sémantiques.
Mais ça mérite qu'on pose le bon diagnostic.
Exactement, ça mérite qu'on pose le bon diagnostic et donc en effet de dire les choses. Et dire les choses, c'est que notamment on doit éviter l'impunité dans notre société. Les règles doivent être posées. Et quand on commet quelque chose de mal, eh bien, on doit évidemment être sanctionné.
Mais je vais vous poser de nouveau la question. Vous n'avez pas de pudeur à utiliser ce mot d'ensauvagement ?
C'est vraiment pas mon mot préféré parce que je le trouve flou.
Je ne vous demande pas si c'est le préféré, est-ce que c'est la réalité ?
Par optimisme, je préfère ne pas l'utiliser. C'est-à-dire, je ne considère pas que notre société est fatalement ensauvagée. Je considère qu'il y a des gens qui ont des comportements qui ne vont pas et que dès le plus jeune âge, nous devons avoir une approche très éducative, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé un plan anti-violence à l'école. Le facteur éducatif est le premier des facteurs,
à la fois
par
la
responsabilité des familles et par le travail de l'école.
Éducation et prévention, et puis surtout répression également.
Oui, bien sûr, c'est toujours un cocktail. Vous savez, quand vous êtes parent, vous savez parfaitement faire cela, c'est-à-dire à la fois être plein de bienveillance et plein d'exigences. Et bien, vis-à-vis de l'enfance et de l'adolescence, on doit avoir ça aussi dans la société, c'est-à-dire ça doit être éducatif, mais on ne doit pas laisser des actes répréhensibles.
Mais vous ne prononcez pas le nom ce matin.
Oui, en fait, en tout cas, j'ai pas de fétichisme sur ce mot, tout simplement.
Et pas de tabou non plus ?
Pas de tabou non plus, enfin voilà, sans fétiche ni tabou.
En ce jour des 150 ans de la République, Jean-Michel Blanquer, Emmanuel Macron va prononcer un discours au Panthéon. Qu'est-ce qui menace, selon vous, le plus la République et ses valeurs aujourd'hui ?
Je pense que ce qui menace la République, c'est deux choses. C'est l'individualisme, le fait, donc l'absence de civisme, et puis d'autre part, toute vision du monde qui veut s'imposer à la République, qui veut se mettre au-dessus de la République. Donc, on pense souvent aux religions, évidemment, ça peut être d'autres choses, mais il est évident que l'islamisme fondamentaliste est une menace évidente dans notre monde, pas seulement en France, à l'échelle internationale aussi, que ça, il faut savoir nommer ce problème, et il faut surtout dire à quel point la République est le projet de société pertinent pour le 21e siècle.
Il faut le dire, alors que les défis sont importants, comment vous avez réagi au sondage IFOP pour Charlie Hebdo indiquant que 26% des Français musulmans entre 15 et 24 ans n'expriment pas de condamnation à l'égard des auteurs des attentats ?
De deux façons. D'abord, en considérant que ce chiffre est grave, évidemment, et renvoie à ce que je disais juste avant. Donc, nous devons être conscients de ce problème, le regarder et le traiter. Avoir un discours volontariste sur la République. La République n'est pas sur la défensive, elle est à l'offensive. Autrement dit, elle affirme ses valeurs et elle les applique au quotidien. Par ailleurs, ce chiffre ne m'a pas tellement surpris parce que d'autres enquêtes précédentes montraient qu'en gros, on avait ce chiffre de 26-28% de nos concitoyens musulmans qui sont tentés par les théories radicales. N'oublions pas que ça fait 72% qui ne le sont pas. Et c'est sur ce 72% qu'on doit compter pour montrer que, eh bien, toute religion peut bien vivre dans la République,
oui,
dès lors que les règles de la République sont respectées.
Vous m'avez dit qu'il faut un discours volontariste, mais je suppose, monsieur le ministre de l'Éducation, que vous avez lu le livre intitulé « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » de l'ancien inspecteur général de l'éducation nationale Jean-Pierre Aubin, qui détaille tous les coups de canif à la laïcité et qui parle d'une passivité, peut-être même d'une complicité du système.
Alors, je connais bien ce qu'écrit Jean-Pierre Aubin, et il a fortement raison sur bien des points. Simplement, ce qu'on voit tout à fait aussi dans ce qu'il écrit, c'est que justement, depuis 3 ans, nous avons agi sur ces questions. Et à l'école, nous avons fait beaucoup. Nous avons établi des normes de référence, nous avons créé un conseil des sages de la laïcité qui a établi ces normes. Et ensuite, nous avons agi à partir de ces normes avec des équipes Valeurs de la République qui interviennent dans les établissements. J'ai aussi envoyé un message à tous, qui doit être toujours très clair, qui est qu'à chaque fois qu'une violation de la laïcité existe dans notre système scolaire, elle doit être signalée et il y a une réponse concrète avec tout simplement ces équipes qui interviennent dans les établissements. Donc nous avons maintenant, nous ne pouvons en aucun cas être accusés de mettre les problèmes sous le tapis, ni même de ne pas être clair. Nous regardons les problèmes, nous les recensons, nous les remontons et nous réagissons. Et par ailleurs, le discours est totalement clair sur les valeurs de la République. Donc, ce que dit Jean-Pierre Aubin est juste sur la durée. Il a raison de dire qu'il y a eu du retard à l'allumage, si je puis dire, une forme de passivité, parfois involontaire. L'institution a parfois été malhabile sur ces questions. Elle a été questionnée, mais maintenant, ça n'est pas le cas. Et nous agissons. Je ne dis pas que la réalité est pure et parfaite, loin s'en faut. Il y a une pente à remonter, mais nous la remontons.
Et les menaces sont grandes, les défis importants. On notera aussi que vous êtes ministre de la Jeunesse, donc l'importance aussi de la jeunesse dans le plan de relance, on aura l'occasion d'en reparler.
C'est
merci.
Très important, oui. Parce que nous allons consacrer beaucoup de moyens au sujet de la jeunesse, de la formation professionnelle en particulier, et puis de toute une série de projets pour l'éducation qui sont importants, mais ce sera l'objet d'une autre émission.
Merci Jean-Michel Blanquer, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne journée, ainsi merci. Qu'à nos auditeurs, bien sûr.